France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée.
From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote.
Bonjour, au micro Christophe Buteau, vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Valentine Zuber. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Présidente de la Vigie de la laïcité, pour parler du 120e anniversaire de la loi de 1905, de séparation des églises et de l'État. Ma première question sera assez traditionnelle. Valentine, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Oui, ça sera très rapide. Je suis historienne de profession, directrice d'études à l'école pratique des hautes études et par ailleurs, comme vous l'avez déjà dit, présidente de l'association La Vigie de la laïcité.
Alors, la Vigie de la laïcité a été invitée par la Libre Pensée sur France Culture à 3 reprises, déjà, je pense, mais peut-être que nos auditeurs ne s'en souviennent pas. Donc, pouvez-vous maintenant nous dire précisément ce qu'est la Vigie de la laïcité ?
Alors, la Vigie de la laïcité, c'est, comme je vous le disais, une association, une jeune association, puisqu'elle a été créée au printemps 2021, à peu près au même moment où l'Observatoire de la laïcité, que dirigeait Jean-Louis Bianco avec Nicolas Cadenne, a été défait par le gouvernement. Et donc, nous avons souhaité, plusieurs universitaires en accord avec Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne, créer une association plus modeste, mais avec les mêmes ambitions que l'Observatoire, c'est-à-dire être un lieu de veille et d'expertise en matière de laïcité.
Donc devant le sabordage, entre guillemets, ça n'engage que moi, cette expression, de la précédente organisation, la Vigie a pris le relais d'une certaine manière. Alors on va parler de la loi de 1905, bien évidemment, puisque c'est l'anniversaire. La loi de 1905, elle sépare, c'est connu, les églises et l'État. Mais est-ce que tout le monde sait précisément ce qui est derrière ce terme de séparation ? Qu'est-ce à dire que séparation des églises et de l'État ?
Alors, la séparation qui est entendue dans le titre de la loi, hein, on s'aperçoit que le terme de laïcité n'est pas employé dans la loi de 1905, mais ce terme de séparation qui a une signification juridique, c'est-à-dire que les religions, les institutions religieuses ne sont plus du domaine public, ne sont plus des missions de service public. Désormais, à partir de 1905, l'État est chez lui et les institutions religieuses relèvent du domaine juridique privé. C'est tout simplement ça. Ça rompt, si vous voulez, avec le système de relations Église-État précédent, qui était un système de concordat et de culte reconnu, où certains cultes étaient subventionnés, les clercs salariés par l'État, et rendaient des missions de service public. Là, maintenant, le religieux devient une affaire privée.
Donc concrètement, par exemple, qu'est-ce qu'un fonctionnaire peut faire ou ne pas faire ? J'ai en tête plusieurs événements dans l'actualité, par exemple concernant les crèches dans des municipalités ou dans d'autres lieux publics.
Oui, alors ça veut dire très précisément, mais c'était déjà entendu dans le régime précédent, mais c'est encore accentué, ça veut dire très précisément que l'État doit être à la fois neutre et équitable entre les différentes convictions, qu'elles soient religieuses ou philosophiques par ailleurs. Donc l'État n'a pas à les reconnaître, en reconnaître une plutôt qu'une autre, donc il n'en reconnaît aucune, et les fonctionnaires de la République sont astreints à un strict devoir de réserve dans l'exercice de leurs fonctions, afin de ne pas avoir discriminer telle ou telle conviction qui existe dans l'espace public.
C'est donc une neutralité de l'État et de ses représentants, les fonctionnaires, à ne pas confondre, peut-être, on y reviendra sûrement après, avec la sécularisation de la société, et notamment des débats qui ont pu avoir sur le voile pour des citoyens. On va passer justement au deuxième terme. La loi de 1905, elle garantit également la liberté de conscience. C'est une loi de liberté. Pouvez-vous développer ce point ?
Alors, elle garantit la liberté de conscience. Certes, c'est le début de l'article premier, l'article de principe, hein, l'article le plus important. Mais elle ne garantit pas seulement la liberté de conscience. elle assure aussi, enfin, la liberté de culte, c'est-à-dire la liberté d'expression. C'est-à-dire, si on préserve la liberté de conscience sans permettre la liberté d'exercer ce que sa conscience vous dicte, eh bien, il n'y a pas de liberté. Donc, il y a bien ces deux termes qui sont très importants et qui sont, en fait, une autre façon de dire ce qui était déjà dit dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1791.
C'est donc une liberté individuelle et collective également.
Exactement, une liberté individuelle et collective, et une liberté qui a une limite aussi, qui est traditionnellement, à la fois dans la Déclaration des droits de l'homme et dans l'article 1er de la loi de 1905, l'ordre public, le souci de l'ordre public établi par la loi.
C'est le respect de l'ordre public. En dehors de cela, bien évidemment, chacun est libre. Alors, séparation et liberté sont certainement les deux termes qui caractérisent effectivement cette loi de 1905 dont nous célébrons le 120e anniversaire. Eh bien, néanmoins, aujourd'hui, certains ne tentent-ils pas de transformer cette loi de liberté en loi de coercition ?
Alors, ça a toujours été une tentation chez les républicains, en particulier quand ils se trouvaient dans des conflits avec l'Église catholique, les clercs, le cléricalisme, ce qu'on dénonçait à la fin du 19e siècle, au début du 20e, et qui revient de temps en temps maintenant. Oui, effectivement, il y a toujours eu une tension, et cette liberté de conscience, elle ne peut s'assurer que si tous peuvent la pratiquer. Donc c'est vraiment une liberté très générale et qui nécessite donc que l'État s'abstienne de juger des idées qui sont professées dans l'espace public.
Alors vous avez parlé tout à l'heure de cléricalisme. J'ai peur que certains auditeurs confondent beaucoup de choses, cléricalisme, anti-religion, etc., etc., laïcité, par exemple. Le cléricalisme, c'est, si je ne m'abuse, vous me corrigerez si je me trompe, la volonté d'une religion, quelle qu'elle soit, d'intervenir dans les affaires de l'État, dans les affaires publiques. Par exemple, je prendrai cet exemple, lors de la loi pour le mariage pour tous, on a vu que beaucoup de religieux organisaient des manifestations et essayaient, ça ce qui est leur droit d'une certaine manière, mais organisaient également une forme de lobbying peut-être auprès des politiques. Peut-on parler là de cléricalisme et est-on toujours dans la laïcité ou non ?
Alors effectivement, on a tort de ne pas considérer que toutes ces grandes manifestations vis-à-vis de projets de loi de libéralisation dans les mœurs ne sont pas des sortes d'atteintes à la laïcité malgré tout. Parce qu'effectivement, la loi de 1905 est très claire. Il s'agit vraiment de liberté pour les religions, pour les individus religieux et croyants, ou pour les non-croyants d'ailleurs, mais dans la mesure où ils ne se mêlent pas du politique qui est de l'ordre de la citoyenneté et qui doit être mis à l'écart du religieux, enfin des doctrines proprement religieuses. Et un État véritablement laïque est un État qui est autonome et qui ne dépend pas de l'influence des clercs, de l'influence de différents école de pensée qui imposerait une manière de penser plutôt qu'une autre.
Liberté, mais dans la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire et de professer ou non une religion. Pour préciser ma pensée, quand je disais que pour certains, cette loi devenait dans leur esprit une loi de coercition, j'ai l'impression que on a eu peut-être ce que certains appellent toujours des laïcards, qui souhaitaient par exemple interdire la soutane au moment de la loi de 1905, c'était le cas de Allard par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire avec aujourd'hui certains qui souhaiteraient interdire, et là je parle pas des fonctionnaires, je parle bien des citoyens, le voile pour nos concitoyens de religion musulmane?
Oui, il y a et toujours eu en France une division très forte dans le camp des républicains, dans le camp des laïcs, entre guillemets, entre ceux qui souhaitaient une liberté individuelle très très étendue et donc simplement des mesures de contrôle en cas de trouble à l'ordre public, et ceux qui avaient pour ambition finalement de dépasser le religieux, de rendre le religieux caduque, et donc d'avoir une politique de coercition envers le religieux. Or, le choix qui a été fait en 1905 par Aristide Briand, par Jean Jaurès, par Ferdinand Buisson, ça a été plutôt de privilégier la liberté de choix, de croire ou de ne pas croire, de croire telle ou telle chose, plutôt que la démolition ou la déstructuration des institutions religieuses, en particulier l'institution catholique.
Alors, peut-être dans la même optique, on entend aussi certains qui proposent, alors ce sont des politiques, ce sont des chroniqueurs, de moderniser, entre guillemets, la loi. Quelle réaction avez-vous par rapport à cette proposition de modernisation de la loi ?
Alors, il me semble que moderniser la loi, c'est un petit peu ambigu. Ce qu'on peut moderniser, c'est un certain nombre d'articles, et d'ailleurs, le législateur ne s'y est pas, s'y est autorisé régulièrement, certains articles de circonstances ou datés qui n'ont plus lieu d'être parce que la situation, tout simplement, sociale ou religieuse a changé. En revanche, ce qu'il ne faut pas moderniser, à mon avis, sauf si on entend moderne comme étant un retour de l'autoritarisme, etc., ça c'est autre chose. Ce qu'il ne faut pas moderniser, ce qu'il faut conserver, et ce qui fait aussi la richesse et l'importance de cette loi et sa longévité, 120 ans c'est pas rien pour une loi, ce sont ces deux articles, le premier article de principe sur la liberté de conscience et de culte, et le deuxième article qui donne la modalité dont on va préserver cette liberté de conscience et de culte, c'est-à-dire en faisant de l'État un agent neutre et impartial, et donc refusant de subventionner de quelque manière que ce soit les différentes options religieuses qui se trouvent sur le territoire.
D'une certaine façon, je dirais que pendant 120 ans, cette loi a réussi à conserver en France une forme de paix civile entre les citoyens, donc elle n'a pas à être modernisée, adaptée, comme vous le dites, éventuellement, dans certains cas, à la marge, mais pas modernisée, elle est toujours efficiente.
Oui, mais en même temps, c'est une tentation toujours pour les politiques d'apporter du nouveau. Et en particulier, la loi confortant les principes de la République de août 2021, dite loi séparatisme, il y a un jeu de mots en plus sur séparation, oui. Séparatisme, a voulu ajouter des clauses supplémentaires de régulation et de contrôle. Mais elle n'a pas vraiment encore touché sur le principe même de liberté individuelle.
Donc il est important que des associations comme la laïcité, comme la libre pensée également à sa place, puissent défendre cette loi. Alors, je vais un petit peu faire la suite de vos deux dernières questions. Il me semble que vos propos illustrent une différence que certains ne font plus. Une différence qui m'apparaît très importante d'expliciter, c'est celle entre la laïcité de l'État et la sécularisation de la société. L'un est un principe juridique que vous avez développé, et l'autre est une évolution sociétale qu'on peut souhaiter ou pas, ça c'est le libre choix de chacun, mais c'est bien deux choses différentes, non ?
Ah ben tout à fait, parce que la laïcité, elle est c'est le cadre, hein, c'est le cadre dans lequel les gens coexistent dans une société. À ce titre, c'est aussi un droit humain, hein, c'est une liberté. Mais la sécularisation des sociétés, ça c'est un phénomène social qui est assez prégnant, en tout cas dans les pays européens et moins dans les Amériques, mais un peu partout dans le monde malgré tout, à des rythmes divers, c'est la déprise petit à petit du religieux, c'est-à-dire que les gens ont tendance à moins pratiquer ou à choisir leur pratique, à avoir une vision plus individualiste du religieux ou du spirituel, et ce qui fait donc qu'il y a beaucoup moins d'unanimité culturelle ou cultuelle dans la société. Et donc, cette société se pluralise et il faut faire face à cette pluralisation et la prendre au sérieux et évidemment respecter ces milliers de chemins, spirituels ou non, intellectuels, qui sont ceux de nos compatriotes.
C'est une différenciation qui me semblait importante de faire dans notre optique de séparation et liberté. Alors, ce sera le dernier point de cette émission, malheureusement trop courte. Samedi 6 décembre à Paris, vous avez participé en tant que présidente de la Vigie de la Laïcité à la fois à un colloque sur l'anniversaire de la loi de 1905 en l'hôtel de la Grande Loge de France à Paris le matin, et au meeting laïque unitaire l'après-midi, avec notamment la libre pensée à la Bourse du Travail. C'est presque de l'ubiquité, dites-moi. Eh bien, quelques mots peut-être sur ces deux événements en guise de conclusion.
Bah écoutez, ça s'est bien passé. Et je pense que c'était un pari, effectivement, d'accoler un événement académique, mais qui voulait avoir une résonance citoyenne et donc ouvert à toutes, et un événement plus militant avec les grandes associations laïques historiques, la Libre Pensée, bien entendu, mais aussi la Ligue de l'Enseignement, la Ligue des Droits de l'Homme, Solidarité Laïque et l'Union Rationaliste. Donc, toutes ces grandes organisations, elles ont un combat centenaire sur le respect de la laïcité, mais une laïcité qui intègre tout le monde, une laïcité qui ne laisse personne sur le côté. Et c'est le souci de la Vigie d'éclairer les éventuels débats dans la société, mais de bien rappeler les grands principes de cette laïcité auxquels nous sommes très attachés.
Donc ce fut deux succès qui présagent favorablement de l'avenir.
Absolument, et je pense qu'il faut sortir la science des amphithéâtres et aussi apporter de la connaissance aux mouvements militants.
Alors, notre émission touche malheureusement à son terme. Valentine, vous avez publié récemment un ouvrage qui s'appelle « Les droits humains, qu'est-ce que ça change ?» aux éditions Labor et Fides. Donc j'invite les auditeurs qui auront été intéressés par votre propos à se le procurer et à le lire. Notre émission arrive à son terme. Il me reste à remercier Valentine Zuber pour son intervention. Merci Valentine.
Merci à vous.
Philippe Baudouin à la réalisation, Paul Guigue à la technique et Claire Poinsignon à la production. Si les propos de ce jour vous ont intéressé, je vous invite à vous abonner à La Raison via notre site fnlp.fr. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission sur la même thématique. Ce sera toujours la loi de 1905, mais cette fois-ci ce sera avec l'historien Jean Bobéro, votre ami et confrère, et ce sera plutôt une optique historique. Merci beaucoup.